Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe pour Invitation au Bonheur. Et comme chaque lundi, je reçois un invité différent. Et cette semaine, mon invité, c'est
Patricia Leboidec.
Je vais te laisser te présenter aux auditeurs. Moi, je t'ai connu à travers un club, qui est le club des entrepreneurs. C'est là que j'ai fait ta connaissance et que, bah, comme je dirais, le miracle de la relation, c'est que plus on apprend à connaître les gens, plus on apprend à les apprécier. Donc, c'est là que j'ai appris à te connaître et à t'apprécier. Donc, merci. Patricia, que pourrais-tu dire de toi pour te présenter ?
Alors, je dirais que je suis une femme, déjà.
Confirme.
Merci, voilà. Je suis mariée, j'ai deux enfants, j'ai trois beaux enfants qui sont des adultes. Je suis psychologue dans la vie et je dirais que ça fait partie peut-être justement de mon bonheur, c'est que je suis une psychologue tournée vers les solutions. Et donc, j'ai aussi beaucoup de plaisir à faire ce métier-là et à apprendre des autres et à apprendre sur moi. Voilà, c'est ce que je pourrais. Et j'aime transmettre. Donc voilà, c'est la rencontre avec les autres qui me plaît et j'en ai fait un métier.
Une harmonie familiale, une harmonie de métier aussi, c'est-à-dire quelque mm-hmm. chose de congruent entre ce que tu es et ce que tu fais, c'est ça ? Est-ce que c'est tes ingrédients du bonheur à toi ?
Oui, je pense que c'est mes ingrédients du bonheur. Oui. Je pense que la définition du bonheur, elle évolue au cours de la vie. J'ai souvenir adolescente, je pense que je devais être comme beaucoup d'adolescents, à vouloir être comme les autres, à avoir peut-être... C'est un peu à la mode aujourd'hui, ce côté justement de faire partie des populaires. Je crois mais ça crée des problèmes dans les écoles. Mais alors, il n'y avait pas ces groupes-là dans mon école, mais ça reflète quelque chose au niveau de l'adolescence, d'être à la fois intégré et à la fois de se distinguer. Je pense que notre société consumériste m'a amené aussi à croire que le bonheur pouvait être dans la possession des choses. Avoir une voiture, avoir une maison, avoir une famille peut-être aussi, dans la notion de possession, alors que aujourd'hui je suis plus consciente que le bonheur il est à l'intérieur, qu'il se cultive à l'intérieur et que c'est justement l'être en premier, le faire. Donc, exemple, mon métier, et avoir, après.
Être, faire et avoir, ok. Cette évolution avec le temps, Patricia, c'était quelque chose qui s'est fait en douceur, de façon naturelle, avec à un moment donné une prise de conscience, en effet, que ta notion de bonheur avait changé, ou bien est-ce que ça se fait par à-coup dans la vie ?
Je pense que ça se fait par à-coup. Je pense que on sait que les enfants sont. Enfin, moi, par exemple, j'ai fait des études de psychologie du développement. Donc, je me suis intéressée dans mes études ce qui faisait que l'enfant, au départ, l'enfant, c'est flagrant, comment il évolue. Et on sait aujourd'hui qu'on a des paliers comme ça d'évolution. La marche pour l'extérieur, pour les parents, c'est un peu du jour au lendemain, alors que ça fait des mois que l'enfant, voire depuis la naissance, qu'il bosse dessus. Puisque le réflexe archaïque de la marche, il participe à cette marche un an après. Et donc, l'adulte aussi est en développement, en tout cas, c'est ce que je pense. Donc, pour ma part, ça s'est fait, je pense, aussi dans la douleur, parce que entre... un événement que j'avais pas vécu, un événement qu'on dirait traumatique, qui a été aussi à l'origine de ces questionnements, je pense, et de cette envie d'aller bien. Et puis donc on avance, c'est un chemin comme toute chose, c'est-à-dire que tout à l'heure je disais que j'ai pu croire que le bonheur était dans la possession, bah oui, puis de se rendre compte qu'on va vers ça et pour autant c'est pas ce qui nous rend heureux, donc il y a eu un moment donné où je crois que j'ai souvenir, je faisais un métier alimentaire et il a fallu, j'en ai eu plein le dos physiquement. Mais j'en avais plein le dos moralement, émotionnellement, ce métier-là, parce qu'il n'était pas en cohérence, il y avait des choses qui n'allaient pas avec mes valeurs, avec mon éthique, et voilà, le corps il a dit stop, quoi. Et ça a été le moment où vraiment je me suis dit non, là ça suffit, il faut que vraiment que je fasse ce qui m'aime, ce que j'aime, et qui va me rendre heureuse, quoi. Donc ça a été d'abord par un coup. Et les processus de développement, de prise de conscience, souvent pour moi, jusqu'à il y a encore, je pense, encore quelques années, je pense à des séminaires de développement personnel ou des séances où ça passait un peu par le côté drame, de pleurer, avant de pouvoir passer à l'étape supérieure, enfin, ou l'étape suivante. Aujourd'hui, je pense que je n'ai plus besoin de passer par ce... Il y a de l'inconfort. Et c'est aussi ça qui fait aussi passer à autre chose, mais voilà, c'est plus dans la douleur en tout cas. Et puis c'est plus rapide les changements, les switches pour passer à une autre étape de confort et de bonheur.
Ouais, nos transformations elles se font en général assez lentement. Il y a des prises de conscience qui sont un peu des accélérateurs.
C'est ça.
Surtout des moments de vie et qui sur le moment on vit ça comme une rupture, comme un deuil. On vit ça comme un drame, comme quelque chose à vivre, et on ne se rend pas toujours compte qu'en fait, c'est ce qui participe de notre construction aussi.
Oui, c'est ça. Et puis, c'est toute la difficulté, c'est-à-dire que on sait peut-être ce qui est inconfortable pour nous, on peut en avoir parfaitement conscience, mais en même temps, il y a un certain attachement à ça, parce qu'on le connaît. On connaît cet inconfort, il a ses bénéfices, mais on ne sait pas si en le lâchant, on va vraiment gagner. On va vraiment gagner quelque chose derrière.
Tout changement fait peur, bien sûr.
C'est ça.
Et moi, je reviens souvent aussi avec mes clients. Donc, comme tu le sais, je ne suis pas psychologue, je suis coach. Bien sûr qu'on utilise souvent les mêmes outils et les mêmes approches. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de points en commun. Avec mes clients, il m'arrive souvent d'aborder cette notion aussi de l'adaptation avec des phrases qui sont difficiles pour moi à entendre, qui sont voilà, mais tu comprends, il faut s'adapter. Voilà. Et donc, souvent, j'arrive à les sensibiliser sur ce besoin, en effet, de ne pas s'adapter, mais de s'ajuster.
Oui, et ce qui peut, moi, peut-être me gêner, toi, dans cette phrase-là, c'est surtout le « il faut ». J'entends beaucoup de personnes effectivement le dire, et je pense aussi que je le dis, mais je suis assez vigilante là-dessus, parce que quand on est dans le « il faut », c'est pas nous, ça vient pas de nous, ça vient de l'extérieur, c'est ça. Le côté « il faut que je travaille », par exemple, c'est une vraie croyance, et c'est dommage, parce que du coup, ça ne permet pas à la personne qui l'emploie de prendre sa responsabilité, dans le sens où elle préfère les conséquences d'avoir un travail que les conséquences de ne pas en avoir.
Monsieur.
Donc effectivement, elle n'est pas en train de, elle n'est pas dans le il faut que je travaille. En réalité, c'est je préfère avoir un travail.
Donc en effet, comment redevenir acteur de sa propre vie, voilà, en choisissant, en préférant, en décidant de plutôt qu'en étant dans le il faut et le je dois. C'est-à-dire, alors si on revient peut-être à quelque chose de peut-être de plus concret encore, c'est de vraiment d'écouter son cœur aussi.
Oui.
Et quelquefois justement de retirer quelques chaînes à son cœur, de le laisser s'ouvrir, hein, comme dirait un certain Joe Cocker. Alors on va peut-être écouter ce titre que tu as choisi.
Merci.
Et ensuite on se retrouve. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you're letting my love go to waste. So unchain my heart, oh please set me free. Unchain my heart, baby let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please set me free. I'm under your spell,
like a man in a trance. but I know darn well, that I don't stand a chance. So unchain my heart,
unchain my heart,
let me go my way.
Unchain my heart,
unchain my heart,
unchain my heart.
You worry me that day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell,
I'm under your spell,
like a man in a trance,
like a man in a trance.
Wow, you know darn well,
I know darn well,
that I don't stand a chance,
that I don't stand a chance.
So unchain my heart,
unchain my heart,
let me go my way.
Unchain my heart,
unchain my heart,
unchain my heart.
You bury me night and day. Set me free.
Please set me free.
Oh, won't you set me free?
Please set me free.
Oh, oh, set me free.
Please set me free.
Wow, set me free, little girl. Et ce titre, il a une histoire particulière pour toi?
Alors, il ne correspond pas à une situation. Je sais qu'il y a des morceaux de musique comme ça que je peux entendre qui vont correspondre un peu comme à la Madeleine de Proust. Mais Joe Cocker, je crois que j'aime sa voix. Il y a vraiment... il a des chansons d'amour. C'est à la fois péchu. Donc, je trouve que c'est une chanson qui est dynamique. Et ça participe à... au fait de me donner la pêche, de me donner l'enthousiasme. Donc voilà pourquoi j'aime bien.
Il y a l'énergie et il y a une telle profondeur aussi dans sa voix, je trouve.
C'est ça, il y a les deux.
Rocailleux, douloureux presque, très blues aussi, qui raconte une vie qui était loin d'être un long fleuve tranquille, je pense. Et il y a ça aussi, je pense, qui nous parle aussi dans cette... dans ce son particulier de sa voix.
Oui, parce que lorsqu'une personne réussit, que ce soit effectivement une star ou même, je sais pas, quelqu'un qu'on connaît dans notre entourage, on a toujours l'impression qu'il a eu de la chance. Alors que non, il y a eu des coulisses, il y a eu des répétitions, il y a eu des douleurs, il y a eu des courbatures. Et donc, oui, je pense qu'il y a quelque chose de ça aussi dans son histoire. Il a d'ailleurs... Personnellement, je crois qu'il a été connu tardivement dans sa vie. Donc, je pense que ses chansons, elles ont aussi cette épaisseur-là. Parce qu'il a vécu, quoi.
Je crois que c'est Woodstock et la chanson des Beatles qui l'a vraiment permis d'être en lumière, en fait. Il était déjà bien présent, bien âgé. Ouais,
c'est possible.
La musique a une part importante dans ta vie, si on parle du bonheur.
Je pense beaucoup avant, j'écoute beaucoup moins aujourd'hui, mais peut-être parce que il y a eu une période où j'ai eu besoin de remplir mon quotidien de musique. Je suppose que c'est aussi des périodes de vie, c'est-à-dire que c'était aussi un moyen de ne pas me sentir toute seule, de ne pas... Moi, je suis enfant unique, si on prend mon histoire, donc je suis enfant unique. Donc la musique, c'était important d'avoir une ambiance sonore pour moi quand j'étais, je sais pas, à la maison le mercredi toute seule. J'avais besoin de ça. Adulte, ça a dû continuer, et puis il y a eu un moment où j'ai eu moins besoin de ça. Donc aujourd'hui, ça va être plus vraiment un choix. Allez, aujourd'hui j'ai envie d'écouter de la musique, donc je vais le faire. Y a des moments, ça va être aussi pour changer d'état d'esprit.
D'accord.
Pour changer d'état d'esprit, si je me sens. C'est pas jeune, mais je sais que j'ai eu coutume de dire ça quand je suis en mode grognonieux. C'était mon expression pour dire que j'étais en mode grognon, pas contente,
L'humeur n'est pas au rendez-vous.
L'humeur n'est pas au rendez-vous. Mettre de la musique, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça remet de la dynamique, ça remet de l'enthousiasme, ça change l'énergie. Aujourd'hui, j'ai d'autres sources. Donc,
on dit que ça adoucit les mœurs, mais je pense que ça adoucit l'humeur aussi, tout simplement. Hein, ça nous fait bien. C'est une des meilleures thérapies qu'on puisse trouver pour se sentir bien et pour partager aussi des choses avec les autres. Puisqu'on parle de thérapie, tu es psychologue. Quel est ton bonheur, toi, au niveau professionnel? Comment tu trouves ton bonheur au niveau professionnel?
Je trouve mon bonheur quand je vois les gens grandir, évoluer. Alors je dis quand, j'exagère, mais ça peut être une séance de début, des parents qui viennent avec leurs enfants et on dit quelque chose, on parle de l'histoire de l'enfant, il se passe quelque chose, parce qu'il y a une reformulation de ma part, par exemple, de l'histoire de l'enfant et de voir que l'enfant est en suspens, même quand ils sont tout petits, en train d'attendre la réponse que les parents sont en train de dire ou ce dont on est en train de parler, et de voir que physiquement il s'est passé quelque chose. Clac, il a posé un sac, il a entendu une autre interprétation qu'il avait pu faire de son histoire qui lui fait du bien. Ça, j'adore. J'adore aussi voir quand je disais les gens grandir, c'est prendre conscience que. Alors c'est peut-être les adolescents aussi, mais les adultes aussi, de croire qu'ils ont des duvets, qu'ils ne savent pas trop voler, et que là, de les voir ouvrir les ailes, grandir, prendre de l'épaisseur, prendre du volume, prendre l'altitude du coup. Prendre de l'altitude et donc de sortir de leurs limites finalement, ou en tout cas d'élargir leur zone de compétences, une vision plus large et plus belle d'eux. Ça, j'aime ça.
Les voir se transformer positivement, voilà.
Voilà, c'est ça.
Les mots, en fait, parce que ton travail, c'est d'échanger des mots, juste.
C'est ça. Et d'entendre, par exemple, j'ai eu le cas d'une femme ces jours-ci qui me racontait une scène, et elle me disait, il y a quelques années, j'aurais pas du tout aimé, j'aurais été mal de il y avait une dispute avec une de ses amies et elle me dit j'aurais été vraiment très mal, alors que là j'ai compris que ça n'était pas moi qui était concernée, mais qu'il se passait sans doute quelque chose pour elle, et sachant pourquoi elle était venue la première fois, je me suis dit génial. Elle a mis du confort et elle a été capable, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle me racontait l'histoire, elle a été capable de la recontacter quelques temps après pour savoir comment elle allait. Alors qu'effectivement, il y a quelques années, elle aurait été incapable de le faire, et elle aurait été jusqu'à la rupture avec cette amie, malgré le fait qu'elle l'appréciait. Donc voilà, ça c'est des choses comme ça que je dis, ah génial, j'adore.
Mais ces jours-là, ce moment-là, on se dit, bon, je sais pourquoi je suis sur Terre, finalement.
C'est ça.
Qu'on n'est pas en train d'exercer une profession, mais qu'on est dans le cadre d'une mission, finalement. Moi, ça m'évoque, si je peux aussi partager quelque chose de personnel, enfin de personnel, de professionnel, ça m'évoque, après une formation à la cohésion d'équipe, en fait, où on parlait beaucoup de communication non violente, mais qui était vraiment du coaching collectif, en fait, plus qu'une formation. Une personne, lorsqu'on l'ai revue 6 mois plus tard, me dit, ben, vous savez, grâce à ce qu'on a fait ensemble, j'ai repris contact avec ma fille, on ne se parlait pas depuis 10 ans. Je trouve qu'à ce moment-là, on se dit, voilà, je sais que je suis un peu pour cette histoire, je suis un peu partie prenante de cette histoire, ça permet vraiment aux gens de pouvoir grandir. Donc, quel bonheur. On va passer à une petite séquence surprise, j'ai mes cartes du bonheur. Alors, c'est plus d'une centaine de mots, en fait, du bonheur. Et voilà, ces cartes sont là, comme ça. Alors, normalement, si on était en face à face, on tirerait une au hasard.
C'est ça.
Voilà, alors... je vais peut-être passer tout simplement mon doigt, puis tu vas me dire stop, tout simplement, dès qu'il y a une carte qui te plaît.
D'accord. Celle-ci.
Je te montre le mot, parce que nous sommes sur Zoom, c'est le mot complétude.
Complétude.
Qu'est-ce que ce mot t'évoque, puisque nous parlons de bonheur?
Alors, j'ai plutôt envie de l'associer à d'autres mots. Ça me fait penser à complet et gratitude, une sorte de mélange de complet et de gratitude. On a tendance, ce qui me vient, c'est qu'on a tendance en France et peut-être en Occident de séparer, par exemple, la tête et le corps, alors qu'en réalité, notre tête est bien accrochée à notre corps et que les choses sont liées. Elles sont tellement liées qu'aujourd'hui, on parle de deux cerveaux, le cerveau du bas avec l'intestin et le cerveau du haut, celui qui était officiellement le cerveau, qu'ils communiquent directement, qu'ils s'influencent les uns et les autres. Et je pense que justement, cette séparation-là crée de la distorsion, crée du malheur. La vie telle qu'elle est aujourd'hui, aussi quand on a ces expressions de vie professionnelle, vie privée, du temps à la maison, du temps au travail, là le mot complétude, je me dis ça va avec, en tout cas ce qui a fait partie de ma recherche, oui, je pense que c'était ma recherche de regrouper le tout. Donc quelque part de remettre la tête dans le corps et savoir que voilà, ça passait par le corps aussi, les transformations. Dans mon métier, je suis toujours Patricia Le Bonnec qui a tel âge, qui a telle configuration familiale, qui a telle histoire, et que je ne peux pas l'enlever quand je fais mon métier ou même quand je fais du sport, et ça c'est valable pour moi comme beaucoup de gens. Donc la complétude, ça serait une façon de reconnaître que l'on est un et qu'en même temps ce un est illimité.
Oui, ce un est pluriel.
Ce un est pluriel, voilà, c'est ça, absolument.
Bien, merci beaucoup Patricia.
Avec plaisir.
Nous passons maintenant à l'heure du conte. Petit conte zen. Un maître zen vit un scorpion se noyer et décida de le tirer de l'eau. Lorsqu'il le fit, le scorpion le piqua. Par l'effet de la douleur, le maître lâcha l'animal qui de nouveau tomba à l'eau en train de se noyer. Le maître tenta de le tirer nouvellement et l'animal le piqua encore. Un jeune disciple qui était en train d'observer la scène se rapprocha du maître et lui dit « Excusez-moi, maître, mais vous êtes têtu, hein ? Ne comprenez-vous pas qu'à chaque fois que vous tenterez de le tirer de l'eau, il va vous piquer ?» Le maître répondit « La nature du scorpion est de piquer. Et cela ne va pas changer la mienne qui est d'aider. » Alors, à l'aide d'une feuille, le maître tira le scorpion de l'eau et sauva sa vie. Puis s'adressant à son jeune disciple, il continua. « Ne change pas ta nature si quelqu'un te fait mal. Prends juste des précautions. Les uns poursuivent le bonheur, les autres le créent. Quand ta vie te présente 1000 raisons de pleurer, montre-lui que tu as 1000 raisons pour sourire. Préoccupe-toi plus de ta conscience que de ta réputation. Parce que ta conscience est ce que tu es, et ta réputation, c'est ce que les autres pensent de toi. Et ce que les autres pensent de toi, c'est leur problème. »
Excellent. Je ne me rappelais plus exactement de la fin.
Et donc, c'était Jean-Marie Marcos et Patricia Le Bouédec pour Invitation au bonheur. Je vais maintenant partager un titre de ma propre playlist de bonheur. Mais auparavant, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h sur Radio Axe. Et d'ici là, soyez
heureux.
Merci.
Merci à toi.
The book of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me, and you can read me anything. The Book of Love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental, some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me, and you can sing me anything. Love is long and boring, and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes, and things we're all too young to know. But I